Chers auditeurs, chères auditrices, nous voici à nouveau pour cette deuxième partie de l'après-midi et nous avons le plaisir d'accueillir Karine Glohanec-Morin, donc femme politique française, membre du Parti Socialiste et députée européenne. Donc vous avez été très tôt engagée dans l'action culturelle, en tant qu'artiste tout d'abord, ensuite vous avez été conseillère pour la culture et les relations internationales, vous avez été également élue au conseil régional du Centre-Val de Loire et depuis 2018 députée européenne. Donc nous sommes très heureux et heureuses de vous accueillir dans les rencontres européennes du social, qui est un événement important dans le milieu associatif au niveau européen sur toutes les questions qui concernent le social. Donc nous allons nous intéresser justement à la question du social au niveau européen. Donc tout d'abord, je voulais que vous nous présentiez rapidement qu'est-ce que le socle européen des droits sociaux.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs également et merci de cette invitation. Moi, je suis très contente d'avoir été sollicitée par les CMA pour ces rencontres et de venir en tant que parlementaire européenne parler des droits sociaux. C'est pas forcément quelque chose qui est très connu et pourtant il y a au moins une déclaration commune entre le Parlement, le Conseil et la Commission depuis novembre 2017. Ça a été signé à Göteborg en Suède sur la rédaction d'un socle des droits sociaux, un socle européen des droits sociaux. Je pense que c'est un élément très important dont on doit se saisir, même si, vous le savez, l'Union européenne n'a pas une compétence très, très large sur le social.
Mmh. Et donc, ce socle européen revendique quoi au niveau des droits sociaux ?
Alors, il est basé en fait sur trois objectifs, trois thématiques. D'abord, bien sûr, l'égalité et l'accès au marché du travail. C'est extrêmement important parce que dans le constat, on peut considérer que les travailleurs pauvres augmentent au sein de l'Union européenne. Hein. C'est passé de 2007 à 7,6, c'était déjà énorme, à 2015 où nous sommes passés à 9,5% de travailleurs pauvres au sein de l'Union européenne. Donc un accès au marché du travail, c'est vraiment très important. L'autre thématique, c'est aussi des conditions de travail équitables. Sur tous les États membres, il faut qu'il y ait au moins un socle commun qui affirme des conditions de travail qui soient correctes. Et nous y travaillons beaucoup au Parlement, mais c'est encore, bien sûr, une dimension qu'il faut faire évoluer. Et donc ça, c'est très important. Et puis la troisième thématique, c'est bien sûr la protection et l'insertion sociale. Et vous savez que nous sommes considérés au niveau mondial comme un continent extrêmement protecteur. Je crois que c'est bien de formaliser toute la manière dont l'Union européenne peut agir sur la protection, bien sûr la protection sociale, mais aussi d'ailleurs la protection alimentaire, la protection sanitaire. Voilà. Donc il y a ces trois sujets qui ont permis de décliner une vingtaine de principes qui sont actés et qui ont été signés, proclamés. Donc il faut se saisir vraiment de ce texte.
Très bien. Et justement, pour se saisir de ce texte, au niveau des alliances, donc avec les mouvements sociaux et avec le milieu associatif, comment il a un peu pensé cette articulation entre le socle et puis les mouvements sociaux ?
En fait, c'est parce que vous-même, acteurs sociaux, associations, institutions de solidarité, vous vous êtes manifestés auprès de l'Union européenne à différents niveaux. C'est pour cette raison et parce qu'il y avait un constat, c'est vrai, sur les travailleurs pauvres, je le disais tout à l'heure, sur le désamour aussi de nos concitoyens vis-à-vis de l'Union européenne, peut-être un manque d'information et un manque de liens, et puis aussi sur une convergence qui est l'acte fondateur de l'Union européenne qui n'arrive pas à se mettre en place de manière juste entre tous les États. Et c'est toutes ces raisons qui ont motivé en fait la rédaction de ce socle. Donc vous êtes vous-même les CMA, mais aussi toutes les structures associatives de solidarité, d'engagement, d'émancipation et de soutien à l'insertion humaine, tout ce qui concerne le capital humain. En fait, vous êtes bien sûr ceux qui avaient motivé la rédaction de ce socle.
D'accord. Et quelles alliances futures on pourrait imaginer pour justement la promotion de ce socle européen ?
En fait, pour, vous savez que la compétence est très restreinte au niveau de l'Union européenne, donc il faut sans doute établir plus de liens avec le secteur associatif. Je ne sais pas ce que vous entendez dans Alliance. Vous savez, chez nous, Alliance politique, c'est un terme très précis.
Ah. Mais convergence, si vous voulez.
Oui, ou convergence, voilà. Et donc,
ce que
nous avons entendu dans la revendication, il faut aujourd'hui peut-être la mettre en place. Et nous avons, par exemple, un intergroupe. Moi, je co-préside un intergroupe sur les biens communs et le service public. Mm-hmm. Ce sont des endroits où, justement, nous prenons la tâche de toute la société civile. Et c'est pas une commission du Parlement, c'est vraiment un groupe plus large où on peut vraiment travailler avec la société civile, le secteur associatif, le secteur partenarial, les corps aussi intermédiaires. Enfin, on peut travailler avec tout le monde. Et c'est aussi cet intergroupe, d'ailleurs, qui a motivé, qui a été l'endroit qui a rassemblé les revendications et les doléances de tout un secteur, qui a motivé la rédaction de ce socle avec en amont l'organisation de plusieurs conférences autour de la notion de services publics et de droits sociaux.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez être encore plus précis sur le fonctionnement de l'intergroupe, parce que c'est quelque chose qui n'est quand même pas très connu du commun des mortels. Oui. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu vraiment le fonctionnement de cet intergroupe ?
C'est une instance qui n'est pas institutionnelle. Donc vraiment, on a un fonctionnement qui est en fait en fonction, qui s'organise en fonction de la disponibilité aussi de ceux qui en font partie. Moi, je co-préside. Donc depuis que je suis arrivée, on a déjà organisé plusieurs réunions sur différentes thématiques. Hein, mais, et d'ailleurs, nous avons là pour objectif d'organiser une réunion sur la citoyenneté européenne et les services publics. Et c'est très important aussi d'avoir ce sujet. Donc l'intergroupe y réunit à la fois des parlementaires de différentes familles politiques et également des structures d'accompagnement. Nous travaillons beaucoup avec la conférence de l'emploi ou avec des structures qui peuvent nous accompagner sur certaines thématiques. Et donc, c'est un outil assez libre. C'est bien parce qu'en fait, il devient ce qu'en font les animateurs de cet intergroupe. Donc moi, je le co-préside avec une autre parlementaire européenne, et donc nous choisissons des thématiques autour de la notion de service public et de bien commun, et donc il vit comme ça. Il peut avoir, c'est vrai, des conséquences positives, comme là ce socle européen des droits communs, mais il peut aussi ne pas avoir de suite concrète tout de suite. Moi, je dois dire que nous ne travaillons pas du tout avec l'extrême droite au niveau européen, mais quasiment personne ne travaille avec eux. Enfin, tous les républicains, en tout cas, ne travaillent pas avec eux. Mais sinon, bien sûr, on est très ouverts avec... ça va de la droite, centre, les Verts la gauche traditionnelle et la gauche plus extrême.
D'accord. Et justement, au niveau de cette notion de service public, dans une Europe qui est quand même sur des considérations très, très différentes, comment elle se pense, cette notion de service public au niveau européen ?
En fait, c'est justement pour cette raison qu'on a créé ce groupe. Mm-hmm. Parce que, vous le savez, pendant longtemps, on était sur une différenciation entre intérêt général, service public, et qu'il fallait sortir de cette confrontation, souvent, où on disait « Ah, mais de toute façon, le service public, ça n'existe pas au niveau européen, vous le savez bien. » ce sont des services d'intérêt généraux, donc on ne parle pas de la même chose, donc on n'en parle pas. Et donc il fallait créer cette instance pour bien montrer que nous avons des biens communs, des objectifs communs au niveau de la protection et du service à rendre quand même au public et à nos concitoyens. Et donc, il est né aussi de cette réflexion et de cette complexité. Mais vous savez, au niveau européen, il y a beaucoup de complexité parce que nous sommes à la fois un socle commun. Tout à l'heure, dans la conférence, je parlais d'un recueil qui m'est très cher, qui réunit une centaine d'articles d'historiens européens et outre, d'ailleurs, des cinq continents, qui racontent l'histoire européenne. Notre histoire, mais pas l'histoire de l'Union européenne, hein, mais l'histoire d'Homère à aujourd'hui, de ce que nous sommes. Et c'est extrêmement important de se rappeler que nous venons de quelque part pour construire et pour remettre vraiment au cœur de nos préoccupations les valeurs qui nous réunissent. Parce qu'aujourd'hui, vous le sentez bien, il y a des dérives extrêmement fortes, mais qu'il faut analyser. Il ne faut pas juste considérer comme une position d'eurosceptique. Il y a des eurosceptiques, il y a des gens qui ne croient pas en l'Union européenne, mais il y a aussi... et c'est plus grave, et il faut l'analyser, des gens qui considèrent que l'Europe d'aujourd'hui, elle ne représente pas une Europe, comment dire, l'Europe occidentale ne serait pas en fait la représentation de toute l'Europe. Mmh. Et c'est pour cette raison que d'ailleurs nous avons activé l'article 7 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, nous les parlementaires européens, pour, par exemple, alerter Viktor Orban, mm-hmm. par exemple, sur la Hongrie, en disant qu'il ne respectait pas les valeurs mm-hmm. européennes et que nous avons la possibilité d'activer un outil qui, s'il va jusqu'au bout de son processus, peut lui enlever son droit de vote au niveau du Conseil. Mmh. Malheureusement, je pense que déjà, le Conseil a un peu freiné sur le processus. Mais malheureusement ou heureusement, parce que c'est toujours regrettable d'aller jusque-là. Mais aujourd'hui, l'Union européenne, elle est attaquée autant en interne qu'à l'extérieur. Vous voyez bien comment les États-Unis, comment la Russie aimeraient beaucoup fragiliser l'Europe et comment les derniers pays entrants aussi... ne se reconnaissent pas dans l'union d'aujourd'hui. Mm-hmm. Peut-être pas pour les bonnes raisons, parce que c'est vrai qu'on a besoin de faire évoluer l'Europe, peut-être de la sortir d'une Europe très libérale qui s'est constituée à la fois sur des valeurs très importantes. Je rappelais ce matin que dans le traité de Rome, donc en 1957, l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes apparaissait déjà en 57. Vous voyez comme le chemin est long pour arriver à cette égalité. Mais donc des valeurs partagées, mais en même temps peut-être une dérive d'échange commercial, de marché, qui ne correspond plus aujourd'hui à ce que souhaitent nos concitoyens européens. Ce qui fait que certains pays entrants se disent « Ah mais nous, on ne se reconnaît pas dans cette machine économique que vous avez construite, on voudrait autre chose », mais avec des arguments qui font peur, en disant « Non, l'Europe, elle est chrétienne et elle ne doit pas accueillir des migrants, par exemple ». Et ça, c'est pour cette raison que nous alertons, par exemple, la Hongrie, mais ça peut être entendu par d'autres États. Donc voilà, la réflexion, elle est encore une fois très complexe au niveau européen. Il faut être très prudent parce que nous sommes dans un moment très inquiétant où il faut construire justement une Europe qui soit peut-être mieux définie dans ses frontières, mais ouverte au monde et ouverte aussi aux flux migratoires qui ne vont pas cesser, qui vont faire partie de notre histoire, et pas se renfermer sur nous-mêmes en disant oh non, nous, l'Europe, elle est chrétienne et elle est fermée sur elle-même. Non, c'est pas ça. Nous, au contraire, c'est pour cette raison que je vous rappelais ce recueil d'articles historiques, parce qu'on voit bien que notre Europe, elle a été constamment traversée par une diversité qui fait toute sa force. C'est pour cette raison que les termes qui nous réunissent, notre devise unie dans la diversité, elle est juste. Nous sommes dans une grande diversité et c'est ça qu'il faut vraiment porter.
Par rapport à cette question de l'intergroupe sur les biens communs et les services publics, est-ce que donc nous, en tant que Fédération internationale des CMEA, nous travaillons sur un plaidoyer contre la marchandisation de l'éducation ? Et notamment sur toutes les questions liées au numérique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus comment au niveau du Parlement cette question se traite, et pour vous, quels sont les enjeux sur ces questions du numérique ?
Oui, je vous disais tout à l'heure qu'on va travailler sur la question de la citoyenneté européenne du service public. Moi, je suis très inquiète sur ce qui se passe avec la jeunesse. D'une part, parce que, ici en France, en tout cas, mais ça peut se produire aussi dans d'autres États membres, il y a une proposition au niveau du ministère de la Culture qui propose un pass culture. Hein, c'était une idée qui a été lancée par l'Italie, vous vous souvenez, qui est d'ailleurs, qui existe déjà dans différentes régions françaises. Mais qu'il faut vraiment vraiment appréhendé avec beaucoup de précautions. Mmh. Or, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'autour de ce pass culture qui a été présenté avec toutes les vertus d'accompagnement, d'émancipation des jeunes, d'ouverture vers la culture, il est porté par une start-up au niveau du ministère de la Culture qui a confié donc la mise en place de ce pass à une start-up, parce que c'est assez compliqué, c'est vrai, de financer, de proposer 500 euros à chaque jeune qui a 18 ans. Donc là, c'est pas un public contraint, c'est tous les jeunes. Donc, et donc, il fallait, c'est vrai, une organisation. Donc, elle est numérique, pourquoi pas. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que ce qui est défendu par cette start-up, c'est l'ouverture à la consommation culturelle. Le mot consommation, il revient quasiment dans la bouche des porteurs de projets. Ce sont l'ancien directeur du CNC, donc des gens qui connaissent vraiment la culture, et pourtant ils parlent de consommation culturelle, comment orienter la consommation, faire avancer la consommation. Alors il y a sans doute de manière prudente, il y a, c'est vrai, des restrictions à la fois sur la consommation numérique, mais en même temps ça va permettre à certains jeunes d'accéder à des réseaux et à une consommation numérique qui ensuite va se perpétuer une fois que la consommation des 500 euros va être dépassée. Donc, je vous dis, lisez les textes, vous allez voir, c'est très très inquiétant la manière dont le ministère de la Culture met en place ce pass culture, à l'instar de régions qui l'ont fait déjà, mais avec beaucoup plus de prudence. Mmh. Aujourd'hui, c'est vraiment le soutien à la consommation culturelle, ce qui est contraire vraiment à l'émancipation et à l'esprit critique et à ce qu'on peut porter pour la jeunesse. Donc ça, c'est vraiment très inquiétant. Et vous me disiez aussi, c'est vrai, la dimension justement numérique. Mmh. Vous savez, au Parlement européen, nous nous battons énormément contre la manière hégémonique dont les GAFA, les GAFAM,
Google, Amazon,
Facebook, et aujourd'hui, voilà, tout ce qui peut organiser l'accès au numérique. Et qui, en fait, sur le sol européen, fait beaucoup de bénéfices. Ils font beaucoup de bénéfices sans contribuer à l'effort européen, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas leurs impôts. Donc, la taxe des GAFAM, pour nous, c'est extrêmement important. Et dans le message que nous avons passé le 12 septembre dernier en votant la réforme des droits d'auteur, nous avions un message, bien sûr, nous avions le soutien aux droits d'auteur et à la rémunération des artistes, des journalistes, des auteurs, mais il y avait aussi un message que nous voulions passer aux GAFAM pour leur dire stop à l'utilisation de contenu culturel sans rémunération. Vous n'avez pas le droit de faire des bénéfices sans payer d'impôts et sans payer les auteurs de vos contenus.
Un enjeu fondamental. Je vous remercie infiniment pour ces éclairages. On continue le combat.
Combattre, c'est toujours avancer. Et puis, moi, je vous remercie beaucoup. Je remercie les CMEA, d'abord, cette construction qui dure sur l'émancipation. C'est très, très important. Et merci pour cette invitation.
Merci à vous.